Chapitre 63. À la lueur de l'aube, Beata sondait la plaine. Le soleil pointait à l'horizon et tout laissait supposer que la journée serait claire et chaude, une excellente nouvelle après la pluie de ces derniers jours. Dans le ciel dégagé, les rares nuages colorés de rose qui s'étiraient paresseusement à l'est évoquaient vaguement des lignes d'écriture tracées sur une ardoise par la craie hésitante d'un enfant. Postée sur le socle de la dominie d'Urtsch, la jeune Aken avait le sentiment de pouvoir observer jusqu'aux plus lointaines contrées du pays sauvage. Beata constata qu'Estelle Ruffin avait eu raison de lui demander de venir. Dans le lointain, un cavalier approchait. Bien entendu, il avait choisi le terrain le plus facile, juste en face de son poste. Il avait encore du chemin à faire, mais à le voir galoper ventre à terre, on pouvait douter qu'il eût l'intention de s'arrêter. Beata attendit qu'il soit à portée de voix.
« Halte ! » cria-t-elle. « Halte ! Qui que vous soyez !»
Le cavalier ne ralentit pas. Beata supposa qu'elle s'était trompée et qu'il ne l'avait pas entendue. Sur cette immense plaine, la perspective pouvait être trompeuse. Souvent, les voyageurs mettaient beaucoup plus longtemps à arriver que prévu.
« Que faisons-nous ? »
demanda Estelle. Jusque-là, elle n'avait jamais vu un cavalier avancer aussi vite et avec aussi peu d'intention, apparemment, de marquer une pause devant le poste de contrôle. Avec le temps, Beata ne s'étonnait plus que des andériens des deux sexes s'en réfèrent sans cesse à elle. Habituée à exercer l'autorité, elle en tirait de plus en plus de satisfaction. Une situation paradoxale. Bertrand Schanbourg avait promulgué les lois qui lui permettaient de servir dans l'armée et de commander des andériens. Puis, il l'avait poussée, très involontairement, à franchir le pas et à s'engager. Bref, l'homme qu'elle haïssait le plus était en même temps son bienfaiteur. Et maintenant qu'il occupait le trône du pontife, elle s'efforçait de ne plus éprouver pour lui qu'un amour filial. La nuit précédente, le capitaine Tolbert était venu avec une escorte de soldats d'Aran. Chargé de chevaucher le long de la frontière pour collecter les votes des soldats, il en avait profité pour leur annoncer la nomination du nouveau pontife. Bien que Beata n'eût pas vu les bulletins des membres de sa section, elle aurait parié que tous avaient tracé une croix. Ils en avaient parlé ensemble et le choix leur avait paru évident. Après l'avoir rencontré, Beata avait pensé que le seigneur Rall était sans doute un homme de bien. Depuis, son opinion n'avait pas varié, et la mère inquisitrice, elle devait l'avouer, lui avait également paru une personne de qualité. En tout cas, elle était plus gentille qu'elle ne l'aurait cru. Cela dit, Beata et ses soldats étaient fiers d'appartenir à l'armée andérienne. La meilleure du monde, comme le leur avait dit le capitaine Tolbert, puisqu'elle n'avait jamais connu la défaite et continuait à être invincible. Désormais, Beata assumait des responsabilités. Elle était un sous-officier qu'on devait respecter comme le stipulaient les lois de Bertrand Schanbourg, et cela ne devait surtout pas changer. Même si elle abondait ainsi dans le sens de l'ancien ministre de la Civilisation, l'homme qui l'avait violentée, Beata avait fièrement voté contre le seigneur Rall. Emmeline avait déjà saisi le marteau et Karl se tenait à ses côtés, prêt à l'aider si le sergent donnait l'ordre d'activer l'arme. Mais Beata leur fit signe de s'écarter.
« Il n'y a qu'un cavalier !»
dit-elle d'une voix pleine d'autorité afin d'apaiser les angoisses de ses subordonnés.
« Mais sergent, il... »
commença Estelle, visiblement frustrée.
« Nous sommes des militaires entraînés, »
coupa Beata.
« Et un seul homme ne peut pas nous menacer. Nous savons nous battre, ne l'oubliez pas. »
Karl s'assura que sa lame coulissait bien dans son fourreau. À l'évidence, il bouillait d'impatience de croiser le fer avec un adversaire. Beata le regarda puis désigna les marches.
« Karl, va chercher Norris et Annette. » Puis postez-vous sur la ligne de défense. Emmeline, tu resteras ici avec Estelle, mais je vous interdis d'approcher du marteau. Pas question de faire sonner notre arme pour un seul cavalier. Je me charge de tout. Contentez-vous de rester ici et de monter la garde. »
Les deux femmes saluèrent leur supérieur, la tranche d'une main plaquée au-dessus des sourcils. Karl esquissa le même geste, puis dévala les marches, excité à la perspective qu'il y ait enfin un peu d'action. Beata descendit derrière lui d'un pas beaucoup plus lent et digne, comme il convenait à un chef. Elle alla se placer à côté de la dominie d'Urtsch sur ce que ses hommes et elle appelaient la ligne de défense. En clair, l'endroit le plus proche de l'arme où elle ne risquait pas de les tuer. Les mains croisées dans le dos, La jeune Haken regarda Karl accourir avec Norris et Annette qui n'avaient pas encore fini d'enfiler sa cotte de maille. Tendant l'oreille, Beata entendit le cavalier crier. Quand il fut un peu plus près, elle comprit qu'il les implorait de ne pas faire sonner la Dominie Dörtsch. La jeune Haken songea que cette voix ne lui était pas inconnue.
« Sergent ?»
demanda Karl, la main sur la garde de son épée. Voyant que Beata hochait la tête, les trois soldats dégainèrent leurs armes. C'était la première fois qu'ils le faisaient ailleurs qu'à l'exercice. Une raison suffisante pour vibrer d'excitation, estima leur chef.
« Halte !»
cria Beata, les mains en porte-voix. Cette fois, le cavalier l'entendit. Tirant sur les rênes de son cheval, il le força à s'arrêter à quelques dizaines de pas de la Dominie Dörtsch.
« Fitch ?»
s'écria Beata, les yeux ronds.
« Beata !»
lança joyeusement le jeune Haken.
« C'est vraiment toi ?»
Il sauta à terre, prit son cheval par la bride et avança vers les soldats. Le pauvre équidé semblait épuisé et son maître n'était guère mieux loti. Pourtant, il trouvait encore la force de bomber stupidement le torse.
« Fitch !»
grogna Beata.
« Dépêche-toi d'approcher !»
Déçu que leur sergent connaisse le voyageur, car cela excluait une bagarre, Karl, Norris et Annette rengainèrent leurs armes. Mais ils n'en quittèrent pas pour autant des yeux l'épée qui pendait sur la hanche gauche de Fitch. Le baudrier était déjà en lui-même une œuvre d'art. Beata n'avait jamais vu un cuir travailler si finement. Quant au fourreau décoré d'or et d'argent, il brillait comme un soleil. La garde de l'épée aussi était remarquable. On eût dit qu'elle était enveloppée de fils d'argent et d'or, mais à cette distance, ce pouvait être une illusion d'optique. Le torse toujours bombé, Fitch sourit à son ami.
« Je suis content de te voir, Beata, et ravi de constater que l'armée a voulu de toi. On dirait bien que nous avons tous les deux réalisé nos rêves. »
Beata était sûre d'avoir mérité que ses souhaits soient exaucés. Connaissant Fitch depuis longtemps, elle n'en aurait pas dit autant à son sujet.
« Que fais-tu là ? »
demanda-t-elle. « Et pourquoi as-tu une arme pareille ?»«
Elle est à moi. Un jour, je t'ai dit que je deviendrais le sourcier. C'est fait. Et je porte donc l'épée de vérité. »
Fitch tourna la garde de son arme pour que Beata puisse lire le mot écrit en fil d'or. C'était celui qu'il avait dessiné dans le fond de la charrette, ce fameux jour dans la cour du domaine. Beata ne l'avait jamais oublié. « Vérité. »
« Les sorciers t'ont donné cette arme, et ils t'ont nommé sourcier de vérité ?»« Eh bien, c'est une longue histoire, Beata. »
Fitch jeta un regard furtif derrière lui.
« Sergent Beata !»
corrigea la jeune Haken. « Pas question qu'un bon arien comme l'ancien gardon de cuisine lui manque de respect. »«
Sergent, quelle réussite fulgurante, mon ami !»
Fitch regarda de nouveau derrière lui.
« Dis-moi, puis-je te parler, en privé de préférence ?» Fitch, je t'en prie, Beata. »
La jeune Haken n'avait jamais vu Fitch dans un tel état d'inquiétude. Sous son arrogance de façade, il était affolé. Elle le prit par le col de sa veste et l'entraîna loin des autres. Bien entendu, ses soldats les suivirent des yeux. Comment les en blâmer? Depuis le passage du seigneur Hall et de la mère inquisitrice, rien d'intéressant n'était arrivé.
« Que fiches-tu avec cette épée? Elle ne t'appartient pas. »
Fitch prit l'air implorant que Beata connaissait si bien.
« Je devais la voir. Comprends-moi, je ne pouvais pas faire autrement. »« Tu l'as volée ? » ?»« Il le fallait. Tu ne... »« Fitch, tu es un criminel. Je devrais t'arrêter et... »« Tu sais, je ne demande que ça, pour prouver que les accusations sont fausses. »«
Quelles accusations ? » ?»«
On prétend que je t'ai violée. »
Beata en fut si choquée qu'aucun son ne parvint à sortir de ses lèvres.
« On m'accuse de ce que le ministre et Stein ont fait. J'avais besoin de l'épée pour démontrer mon innocence. C'est le ministre qui... »« Le pontife, depuis peu. »
parvint à corriger Beata. Fitch parut sonner.
« Dans ce cas, même l'épée ne me servira à rien. Le pontife ? Bon sang, quelle sale affaire. Sur ce point, tu as raison. »
Cette remarque sembla rendre un peu d'énergie à Fitch qui prit son ami par les épaules.
« Beata, tu dois m'aider. Une folle me poursuit. Utilise la Dominie Dörtsch pour l'arrêter, je t'en prie, ne la laisse pas traverser la frontière. »«
Pourquoi te traque-t-elle ? L'épée lui appartient ? » ?»«
Beata, tu ne comprends pas. Tu as volé l'épée, et c'est moi qui ne comprends pas. Fitch, tu n'es qu'un sale menteur. » Beata, la folle, a assassiné Morlaix.
La jeune Haken écarquilla les yeux. Morlaix, le colosse qui travaillait aux cuisines.
C'est une magicienne?
Exactement, oui. Elle a un pouvoir, mais elle est folle et elle a tué Morlaix.
Écoute-moi. Une femme abat un voleur et tu la traites de folle? Tu ne vaux pas mieux que nos ancêtres, Fitch. Une vermine de mâle Haken qui dérobe une épée et qui s'étonne qu'on le poursuive.
Beata, elle me tuera aussi. S'il te plaît, ne la laisse pas traverser.
Des cavaliers approchent,
cria soudain Estelle. Fitch blêmit comme s'il allait s'évanouir. Beata se tourna vers Estelle et vit qu'elle ne désignait pas le pays sauvage, mais Anderith. Donc, il n'y avait pas à s'inquiéter.
« De qui s'agit-il »
demanda-t-elle.
« Ils sont encore trop loin pour le dire, sergent. »
Beata se retourna vers Fitch.
« Fitch, tu dois rendre cette épée. Quand la femme arrivera... »«
Une cavalière en vue !»
lança Emmeline. Cette fois, elle désignait la plaine.
« À quoi ressemble-t-elle ? »
cria Fitch, affolé comme un chat dont la queue est en feu. Emmeline sonda la plaine quelques instants.
« Je n'en sais rien, elle est trop loin. Elle est habillée en rouge ?
On dirait, oui. Et oui, elle est blonde.
Laissez-la passer !»
ordonna Beata.
« Compris, sergent. »«
Beata, tu deviens folle aussi ? »
gémit Fitch.
« Tu veux ma mort ? Cette femme est cinglée, c'est un monstre qui... »
Nous lui parlerons.
N'aie pas peur, nous l'empêcherons de te brutaliser. Mais nous saurons ce qu'elle veut et nous essaierons de le lui donner. Arrête de trembler, pauvre petit garçon.
Fitch sembla vexé et ce ne fut pas pour déplaire à Beata. Après avoir volé un artefact puissant, il avait bien mérité une leçon. D'autant plus qu'il avait entraîné Morlaix dans cette folie et vers sa mort. Dire qu'elle avait jadis cru possible de tomber amoureuse de ce minable.
« Beata, je suis désolée. Je voulais que tu sois fière de moi. »«
Le vol n'est pas un exploit dont on peut être fier, Fitch. »«
Tu ne comprends pas, »
murmura le jeune Haken au bord des larmes.
« Tu ne comprends pas. »
Beata entendit soudain du bruit dans la direction de la Dominie Dirch de droite. Des cris, mais pas la corne de brume censée donner l'alarme. Se retournant, elle vit les trois gardes spéciaux andériens qui approchaient du poste. C'était leur présence qu'Estelle lui avait signalée. Elle se demanda ce qu'ils voulaient. Regardant de nouveau la cavalière, elle enfonça un index dans la poitrine de Fitch.
« Maintenant, tu te tais et tu me laisses faire. »
Sans répondre, le jeune Haken baissa les yeux. La cavalière venait de dépasser la Dominie Dirch. Elle était effectivement vêtue de rouge, de la tête aux pieds. Une tenue étrange. Quand elle vit le visage de la voyageuse, Beata se prépara à avoir de gros ennuis. La détermination de cette femme avait quelque chose de terrifiant. Sans prendre la peine d'attendre que son cheval se soit arrêté, elle sauta à terre devant Fitch, que Beata poussa sur le côté. La femme en rouge fit un roulé-boulé et se releva souplement.
« Plus un geste !»
cria Beata.
« Il a promis de rendre l'épée quand j'aurai parlé avec vous. »
Stupéfaite, elle vit que la femme serrait dans son poing une bouteille noire. Pour sauter d'un cheval avec un tel objet dans la main, il fallait... Eh bien, Fitch n'avait peut-être pas tout à fait tort au sujet de la santé mentale de sa poursuivante. Pourtant, la femme n'avait pas l'air d'une démente, mais elle semblait décidée à poursuivre le Haken jusque dans le royaume des morts, s'il le fallait. Ses yeux bleus rivés sur Fitch, elle ignora superbement Beata.
« Rends-moi l'épée, je ne te tuerai pas. » Après être passé entre mes mains, tu regretteras simplement d'être né. »
Au lieu d'obéir, Fitch dégaina la lame. Une unique note métallique retentit. Habituée à manier des couteaux et maintenant une épée, Beata n'avait pourtant jamais entendu un son pareil. Fitch écarquilla les yeux et ses traits se tordirent comme s'il allait vraiment s'évanouir. Dans son regard, Beata vit une étrange lueur vacillante, à croire qu'il contemplait une atroce vision intérieure. La bouteille levée comme s'il s'agissait d'une arme, la femme tendit son bras libre et replia les doigts pour défier le Haken de l'attaquer. Beata avança pour s'interposer. En un éclair, elle se retrouva assise sur le sol, la joue en feu.
« Ne te mêle pas de ça !»
lâcha la femme d'une voix glaciale.
« Tu n'as aucune raison de te faire amocher. Pense à toi et reste là où tu es.
Elle regarda de nouveau Fitch.
« Allez, mon garçon, donne-moi cette épée ou agis. »
Fitch opta pour la deuxième solution. Il abattit l'épée dont la lame fendit l'air en sifflant. La femme recula d'un pas et para le coup avec la bouteille qui explosa sous l'impact.
« Oui !»
cria la blonde vêtue de rouge. Elle eut un rictus mauvais.
« Maintenant, je vais récupérer l'épée. »
D'un coup de poignet, elle fit voler dans sa paume une courte lanière de cuir rouge accrochée à une chaînette en or. D'abord rayonnante de joie, elle se décomposa et baissa les yeux sur ce qu'elle semblait prendre pour une arme.
« Ça devrait marcher, » murmura-t-elle. « Ça devrait marcher. »
Puis elle releva les yeux et sursauta, comme si elle venait de voir quelque chose qui la ramenait d'un coup à la réalité. Beata tourna la tête, mais ne remarqua rien d'anormal.
La blonde saisit la jeune Haken par l'épaule et la força à se relever.
« File d'ici et amène tes hommes, vite !»«
Pardon ? Fitch a raison, vous êtes folle !»«
Regarde, espèce d'idiote !»
Les gardes spéciaux approchaient toujours en bavardant entre eux.
« Ce sont des hommes à nous, il n'y a rien à craindre !»
« Fiche le camp d'ici avec tes copains ou vous crèverez tous. »
Beata détesta être traitée comme une enfant par une démente. Avisant le caporal Marie Fauvel qui venait voir ce qui se passait, elle l'appela d'une voix impérieuse.
« Oui, sergent ?»
répondit l'ambérienne.
« Allez dire à ces hommes d'attendre jusqu'à ce que j'en ai fini avec cette histoire. »
Les poings sur les hanches, Beata se tourna vers la folle.
« Satisfaite ?»
La blonde prit de nouveau la jeune Haken par l'épaule.
« Petite crétine, éloigne les autres gamins de là, ou vous finirez tous les tripes à l'air. »«
Je suis un sous-officier de l'armée andérienne, »
dit Beata, très énervée.
« Et ces hommes ?»
Furieuse, elle tourna la tête sans terminer sa phrase. Marie Fauvel se campa devant les cavaliers, leva la main et leur annonça qu'ils devraient attendre.
Un des trois cavaliers dégaina nonchalamment son épée, arma le bras, puis frappa presque sans y penser. Avec une puissance terrifiante, sa lame fendit l'air, mordit la taille de Marie et la coupa net en deux.
Beata en resta bouche bée et incapable d'en croire ses yeux.
Chez Inger, elle avait vu abattre tant d'animaux qu'elle n'y prêtait plus attention à la fin. Et après avoir vidé des centaines de carcasses, les entrailles dégoulinantes de sang ne l'impressionnaient plus. En un sens, voir le torse de Marie se détacher de ses jambes ne la traumatisa pas. Les intestins qui se déversaient sous elle ressemblaient tellement à ceux d'un bœuf. Séparée de ses jambes et de ses hanches, Marie émit un cri de surprise. Les yeux écarquillés, elle semblait faire un gros effort pour tenter de comprendre ce qui venait d'arriver à son corps. Enfin consciente qu'il ne s'agissait pas d'un bœuf, Beata se pétrifia d'horreur. Ses mains griffant l'herbe et le sol, Marie tenta de ramper loin de son meurtrier. La tête tournée vers Beata, elle voulut parler, mais n'émit qu'une succession de gargouillis et de gémissements. Puis, ses mains s'ouvrirent et elle cessa de lutter, vidée de son sang comme un vulgaire cochon.
Sur la plateforme, Estelle et Emeline crièrent à s'en briser les cordes vocales. Beata dégaina son épée et la leva au-dessus de sa tête.
« Section, à l'attaque !»
Les trois cavaliers avançaient toujours, souriant comme si de rien n'était. Alors le monde bascula dans la folie.